Lucien Leven, chapitre 47. Monsieur Leven, père, était un homme fort gros, qui avait le teint fleuri, l'œil vif et de jolis cheveux gris bouclés. Son habit, son gilet, était un modèle de cette élégance modeste qui convient à un homme âgé. On trouvait dans toute sa personne quelque chose de leste et d'animé. À son œil noir, à ses brusques changements de physionomie, on l'eût pris plutôt pour un peintre homme de génie, comme il n'y en a plus, que pour un banquier célèbre. Il paraissait dans beaucoup de salons, mais passait sa vie avec les diplomates gens d'esprit. Il abhorrait les graves, et le corps respectable des danseuses de l'opéra. Il était leur providence dans leurs petites affaires d'argent. Tous les soirs, on le trouvait au foyer de l'opéra. Il faisait assez peu de cas de la société qui s'appelle « bonne ». L'impudence et le charlatanisme, sans lesquels on ne réussit pas, l'importunaient. Il ne craignait que deux choses au monde, les ennuyeux et l'air humide. Pour fuir ces deux pestes, il faisait des choses qui eussent donné des ridicules à tout autre. Mais jusqu'à 65 ans qu'il avait maintenant, c'était lui qui donnait des ridicules et n'en prenait pas. Se promenant sur le boulevard, son laquais lui donnait un manteau pour passer devant la rue de la Chaussée-d'Antin. Il changeait d'habit 5 ou 6 fois par jour au moins, suivant le vent qui soufflait, et avait pour cela des appartements dans tous les quartiers de Paris. Son esprit avait du naturel, de la verve, de l'indiscrétion aimable, plutôt que des vues fort élevées. Il s'oubliait quelquefois et avait besoin de s'observer pour ne pas tomber dans les genres imprudents ou indécents. « Si vous n'aviez pas fait fortune dans le commerce de l'argent, » lui disait sa femme qu'il adorait, « vous n'eussiez pu réussir dans aucune autre carrière. Vous racontez une anecdote innocemment et vous ne voyez pas qu'elle blesse mortellement 2 ou 3 prétentions. » « J'ai paré à ce désavantage. » Tout homme solvable est toujours sûr de trouver dans ma caisse 1 000 francs offerts de bonne grâce. Enfin, depuis 10 ans, on ne me discute plus, on m'accepte. Monsieur Leven ne disait jamais la vérité qu'à sa femme. Mais aussi, il la lui disait toute. Elle était pour lui comme une seconde mémoire, à laquelle il croyait plus qu'à la sienne propre. D'abord, il avait voulu s'imposer quelques réserves quand son fils était en tiers. Mais cette réserve était incommode et gâtait l'entretien. Madame Leven aimait à ne pas se priver de la présence de son fils. Il le jugeait fort discret et il avait fini par tout dire devant lui. L'intérieur de ce vieillard, dont les mots méchants faisaient tant de peur, était fort gai. À l'époque où nous sommes, on trouva pendant quelques jours qu'il était triste, agité. Il jouait fort gros jeu le soir, il se permit même de jouer à la bourse. Mademoiselle Desbrun donna 2 soirées dansantes dont il fit les honneurs. Un soir, à 2 heures du matin, en revenant d'une de ces soirées, il trouva son fils qui se chauffait dans le salon, et son chagrin éclata. « Allez pousser le verrou de cette porte !» Et comme Lucien revenait près de la cheminée, « Savez-vous un ridicule affreux dans lequel je suis tombé ?» dit Monsieur Leven avec humeur. « Et lequel, mon père? Je ne m'en serais jamais douté. Je vous aime, et par conséquent, vous me rendez malheureux, car la première duperie, c'est d'aimer » ajouta-t-il en s'animant de plus en plus et prenant un ton sérieux que son fils ne lui avait jamais vu. Dans ma longue carrière, je n'ai connu qu'une exception, mais aussi elle est unique. J'aime votre mère, elle est nécessaire à ma vie, et elle ne m'a jamais donné un grain de malheur. Au lieu de vous regarder comme mon rival dans son cœur, je me suis avisée de vous aimer. C'est un ridicule dans lequel je m'étais bien promis de ne jamais tomber, et vous m'empêchez de dormir. » À ce mot, Lucien devint tout à fait sérieux. Son père n'exagérait jamais, et il comprit qu'il allait avoir affaire à un accès de colère réel. Monsieur Leven était d'autant plus irrité qu'il parlait à son fils après s'être promis 15 jours durant de ne pas lui dire un mot de ce qui le tourmentait. Tout à coup, Monsieur Leven quitta son fils. « Daignez m'attendre, » lui dit-il avec amertume. Il revint bientôt après avec un petit portefeuille de cuir de Russie. « Il y a là 12 000 francs, et si vous ne les prenez pas, je crois que nous nous brouillerons. » « Le sujet de la querelle serait neuf, » dit Lucien en souriant. « Les rôles sont renversés, et... oui, ce n'est pas mal. Voilà du petit esprit, mais en un mot comme un mille, il faut que vous preniez une grande passion pour mademoiselle Gosselin, et n'allez pas lui donner votre argent. » Et puis vous sauver à cheval dans les bois de Meudon ou au diable, comme c'est votre noble habitude. Il s'agit de passer vos soirées avec elle, de lui donner tous vos moments. Il s'agit d'en être fou.
Fou de mademoiselle Gosselin?
Le diable t'emporte. Fou de mademoiselle Gosselin ou d'une autre, que m'importe. Il faut que le public sache que tu as une maîtresse.
Et mon père... La raison de cet ordre si sévère?
Tu la sais fort bien, et voilà que tu deviens de mauvaise foi en parlant avec ton père et traitant de tes intérêts encore. Que le diable t'emporte, et qu'après t'avoir emporté, il ne te rapporte jamais. Je suis sûr que si je passe 2 mois sans te voir, je ne penserai plus à toi. Que n'es-tu resté à ton Nancy? Cela t'allait fort bien. Tu aurais été le digne héros de 2 ou 3 bégueules morales.
Lucien devint pourpre. Mais dans la position que je t'ai faite, ton fichu air sérieux, et même triste, si admiré en province, où il est l'exagération de la mode, n'est propre qu'à te donner le ridicule abominable de n'être au fond qu'un fichu saint-simonien.
Mais je ne suis point saint-simonien, je crois vous l'avoir prouvé.
Et sois-le, saint-simonien, sois encore 1000 fois plus sot.
« Mais ne le parais pas !»«
Mon père, je serai plus parlant, plus gai. Je passerai 2 heures à l'opéra au lieu d'une. »«
Est-ce qu'on change de caractère? Est-ce que tu seras jamais folâtre et léger? Or, toute ta vie, si je n'y mets ordre d'ici à 15 jours, ton sérieux passera non pour l'enseigne du bon sens, pour une mauvaise conséquence d'une bonne chose, mais pour tout ce qu'il y a de plus antipathique à la bonne compagnie. Or, quand ici l'on s'est mis à dos la bonne compagnie, il faut accoutumer son amour-propre à recevoir 10 coups d'épingle par jour, auquel cas la ressource la plus douce qui reste, c'est de se brûler la cervelle, ou, si l'on n'en a pas le courage, d'aller se jeter à la trappe. Voilà où tu en étais il y a 2 mois. Moi me tuant de faire comprendre que tu me ruinais en folie de jeune homme. Et en ce bel état, avec ce fichu bon sens sur la figure, tu vas te faire un ennemi du comte de Beausobre, un renard qui ne te pardonnera de la vie. Car si tu parviens à faire quelques figures dans le monde et que tu t'avises de parler, tôt ou tard tu peux l'obliger à se couper la gorge avec toi, ce qu'il n'aime pas. Sans t'en douter, malgré ton fichu bon sens, que le ciel confonde, tu as à tes trousses 8 ou 10 hommes d'esprit fort bien disants, fort moraux, fort bien reçus dans le monde, et de plus, espions du ministère des Affaires étrangères. Prétendras-tu les tuer en duel? Et si tu es tué, que devient ta mère? Car le diable m'emporte si je pense à toi 2 mois après que je ne te verrai plus. Et pour toi, depuis 3 mois, je cours les chances de prendre un accès de goutte qui peut fort bien m'emporter. Je passe ma vie à cette bourse, qui est plus humide que jamais depuis qu'on y a mis des poils. Pour toi, je me refuse le plaisir de jouer ma fortune à qui tout double, ce qui m'amuserait. Ainsi, tout résolument, veux-tu prendre une grande passion pour mademoiselle Gosselin?
Ainsi... « Vous déclarez la guerre au pauvre petit quart d'heure de liberté que je puis encore avoir. »«
Sans reproche, vous m'avez pris tous mes moments. Il n'est pas de pauvre diable d'ambitieux qui travaille autant que moi, car je compte pour travail, et le plus pénible, les séances à l'opéra et dans les salons, où l'on ne me verrait pas 1 fois en 15 jours si je suivais mon inclination.
Ernest a l'ambition du fauteuil académique. Ce petit coquin de Desbach veut devenir conseiller d'État. Cela les soutient. Moi, je n'ai aucune passion dans tout cela, que le désir de vous prouver ma reconnaissance. Ce qui est le bonheur pour moi, ou du moins ce que je crois tel, c'est de vivre en Europe et en Amérique avec 6 ou 8 000 livres de rente, changeant de ville ou m'arrêtant un mois ou une année selon que je me trouverai bien. Le charlatanisme, indispensable à Paris, me paraît ridicule, et cependant j'ai de l'humeur quand je le vois réussir. Même riche, il faut ici être comédien et continuellement sur la brèche où l'on accroche des ridicules. Or, moi, je ne demande point le bonheur à l'opinion que les autres peuvent avoir de moi. Le mien serait de venir à Paris 6 semaines tous les ans pour voir ce qu'il y aurait de nouveau en tableau, drame, invention, jolie danseuse. Avec cette vie, le monde m'oublierait. Je serais d'ici, à Paris, comme un Russe ou un Anglais. Au lieu de me faire l'amant heureux de Mademoiselle Gosselin, ne pourrais-je pas faire un voyage de 6 mois où vous voudrez ? Au Kamchatka, par exemple, à Canton, dans l'Amérique du Sud. En revenant au bout de 6 mois, tu trouveras ta réputation complètement perdue, et tes vices odieux seraient établis sur des faits incontestables et parfaitement oubliés. C'est ce qu'il y a de pis pour une réputation. La calomnie est bien heureuse quand on la fuit. Il faut ensuite ramener l'attention du public et redonner l'inflammation à la blessure pour la guérir. M'entends-tu ? Que trop, hélas ! Je vois que vous ne voulez pas de 6 mois de voyage ou de 6 mois de prison en échange de Mademoiselle Gosselin. Ah, tu parais devenir raisonnable. Le ciel en soit loué. Mais comprends donc que je ne suis pas baroque. Raisonnons ensemble. Monsieur de Beausobre dispose de 20, de 30, peut-être de 40 espions diplomatiques appartenant à la bonne compagnie, et plusieurs à la très haute société. Il a des espions volontaires, tels que de Perthe, qui a 40 000 livres de rente. Madame la princesse de Vaudémont était à ses ordres. Ces gens ne manquent pas de tact, la plupart ont servi sous 10 ou 12 ministres. La personne qu'ils étudient de plus près, avec le plus de soin, c'est leur ministre. Je les ai surpris jadis, ayant des conférences entre eux à ce sujet. Même, j'ai été consulté par 2 ou 3 qui m'ont des obligations d'argent. 4 ou 5. Monsieur le comte N, par exemple, que tu vois chez moi. Quand ils peuvent écumer une nouvelle, veulent jouer à la rente et n'ont pas toujours ce qu'il faut pour couvrir la différence. Je leur rends service, par-ci, par-là, pour de petites sommes. Enfin, pour te dire tout, j'ai obtenu l'aveu, il y a 15 jours, que le Beausobre a une colère mue contre toi. Il passe pour n'avoir du cœur que lorsqu'il y a un grand cordon à gagner. Peut-être rougit-il de s'être trouvé faible en ta présence. Le pourquoi de sa haine, je l'ignore, mais il te fait l'honneur de te haïr. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on a organisé la mise en circulation d'une calomnie qui tend à te faire passer pour un Saint-Simonien retenu à grand-peine dans le monde par ton amitié pour moi. Après moi, tu arboreras le Saint-Simonisme ou te feras chef de quelque nouvelle religion. Je ne répondrai pas. Même si la colère de Beausobre lui dure, que quelqu'un de ses espions ne le servit comme ont servi Édouard III contre Becket. Plusieurs de ces messieurs, malgré leur brillant cabriolet, ont souvent le besoin le plus pressant d'une gratification de 50 louis, et seraient trop heureux d'accrocher cette somme au moyen d'un duel. C'est à cause de cette partie de mon discours que j'ai la faiblesse de te parler. Tu me fais faire, coquin, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 15 ans, manquer à la parole que je me suis donnée à moi-même. C'est à cause de la gratification de 100 louis, gagnée si l'on t'envoie ad patres, que je n'ai pas pu te parler devant ta mère. Si elle te perd, elle meurt, et j'aurais beau faire des folies, rien ne pourrait me consoler de sa perte. Et, ajouta-t-il avec emphase, nous serions une famille effacée du monde. Je tremble que vous ne vous moquiez de moi,
dit Lucien d'une voix qui semblait s'éteindre à chaque mot. Quand vous me faites une épigramme, elle me semble si bonne que je me la répète pendant 8 jours contre moi-même, et le Méphistophélès que j'ai en moi triomphe de la partie agissante. Ne me plaisantez pas sur une chose que vous savez sans doute, mais que je n'ai jamais avouée à âme qui vive.
Diable, c'est du neuf, en ce cas. Je ne t'en parlerai jamais.
Je tiens, ajouta Lucien d'une voix brève et rapide et en regardant le parquet, à être fidèle à une maîtresse que je n'ai jamais eue. Le moral entre si peu dans mes relations avec Mademoiselle Raymonde qu'elle ne me donne presque pas de remords. Mais cependant, vous allez vous moquer de moi. Elle m'en donne souvent, quand je la trouve gentille. Mais quand je ne lui fais pas la cour, je suis trop sombre, et il me vient des idées de suicide, car rien ne m'amuse. Répondre à votre tendresse est seulement un devoir moins pénible que les autres. Je n'ai trouvé de distraction complète qu'auprès du lit de ce malheureux Cortis. Et encore, à quel prix ? Je côtoyais l'infamie. Mais vous vous moquerez de moi,
dit Lucien en osant relever les yeux à la dérobée. Pas du tout. Heureux qui a une passion, fût-ce d'être amoureux d'un diamant, comme cet Espagnol dont Allemande et Réau nous content l'histoire. La vieillesse n'est autre chose que la privation de folie, l'absence d'illusion et de passion. Je place l'absence des folies bien avant la diminution de la force physique. Je voudrais être amoureux, fût-ce de la plus laide cuisinière de Paris, et qu'elle répondît à ma flamme. Je dirais, comme saint Augustin, « Credo quia absurdum ». Plus ta passion serait absurde, plus je l'envierais.
De grâce, ne faites jamais d'allusion indirecte, et de moi seule comprise à ce grain de folie.
« Jamais !» dit Monsieur Leven.
Et sa physionomie prit un caractère de solennité que Lucien ne lui avait jamais vu. C'est que Monsieur Leven n'était jamais absolument sérieux. Quand il n'avait personne de qui se moquer, il se moquait de soi-même, souvent sans que Madame Leven même s'en aperçût. Ce changement de physionomie plut à notre héros et encouragea sa faiblesse. « Eh bien !» reprit-il d'une voix plus assurée. Si je fais la cour à Mademoiselle Gosselin ou à toute autre demoiselle célèbre, tôt ou tard je serai obligé d'être heureux, et c'est ce qui me fait horreur. Ne vous serait-il pas égal que je prisse une femme honnête ?
Ici, Monsieur Leven éclata de rire.
Ne te fâche pas, dit-il en étouffant. Je suis fidèle à notre traité. Ce n'est pas de la partie réservée que je ris. Et où diable prendrais-tu ta femme honnête ? Oh, mon Dieu ! Et il riait aux larmes. Et quand enfin un beau jour, ta femme honnête confessera sa sensibilité à ta passion, quand enfin sonnera l'heure du berger, que fera le berger ?
Il lui reprochera gravement qu'elle manque à la vertu, dit Lucien d'un grand sang-froid. Cela ne sera-t-il pas bien digne de ce siècle moral ?
Pour que la plaisanterie fût bonne, il faudrait choisir cette maîtresse dans le faubourg Saint-Germain.
Mais vous n'êtes pas duc. Mais je ne sais pas avoir de l'esprit et de la gaieté en ménageant 3 ou 4 préjugés saugrenus dont nous rions même dans nos salons du juste milieu, si stupides d'ailleurs.
Tout en parlant, Lucien vint à songer à quoi il s'engageait insensiblement. Il tourna à la tristesse sur le champ et dit malgré lui
« Quoi, mon père, une grande passion ! Avec ses assiduités, sa constance, son occupation de tous les moments ?»«
Précisément.
Pater meus, transeat ame calix ist. » »«
Mais tu vois mes raisons.
Fais ton arrêt toi-même. » Et choisis tes supplices, Sina.
J'en conviens, la plaisanterie serait meilleure avec une vertu à haute piété et à privilège. Mais tu n'es pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, le pouvoir, qui est une bonne chose, se retire de ces gens-là et vient chez nous.
Eh bien, parmi nous autres, nouvelle noblesse, gagnée en écrasant ou en escamotant la révolution de juillet.
Ah ! Je vois où vous voulez en venir.
Eh bien, dit Monsieur Leven du ton de la plus parfaite bonne foi. Où veux-tu trouver mieux ? N'est-ce pas une vertu d'après celle du faubourg Saint-Germain ?
Comme Dangeau n'était pas un grand seigneur, mais d'après un grand seigneur, elle est trop ridicule à mes yeux. Jamais je ne pourrais m'accoutumer à avoir une grande passion pour Madame Grandet. Dieu, quel flux de paroles, quelle prétention !
Chez Mademoiselle Gosselin, tu auras des gens désagréables à force de mauvais ton. D'ailleurs, plus elle est différente de ce que l'on a aimé, moins il y a d'infidélité.
Monsieur Leven alla se promener à l'autre bout du salon. Il se reprochait cette allusion.
J'ai manqué au traité, cela est mal, fort mal. Quoi, même avec mon fils, ne puis-je pas me permettre de penser tout haut ?
Mon ami, ma dernière phrase ne vaut rien, et je parlerai mieux à l'avenir. Mais voilà 3 heures qui sonnent. Si tu fais ce sacrifice, c'est pour moi uniquement. Je ne te dirai point que, comme le prophète, tu vis dans un nuage depuis plusieurs mois, qu'au sortir de la nuée, tu seras étonné du nouvel aspect de toute chose. Tu en croiras toujours plus tes sensations que mes récits. Ainsi, ce que mon amitié ose te demander, c'est le sacrifice de 6 mois de ta vie. Il n'y aura de très amer que le premier. Ensuite, tu prendras de certaines habitudes dans ce salon où vont quelques hommes passables. Si toutefois tu n'en es pas expulsé par la vertu terrible de Madame Grandet, auquel cas nous chercherions une autre vertu. Te sens-tu le courage de signer un engagement de 6 mois ?
Lucien se promenait dans le salon et ne répondait pas. « Si tu dois signer le traité, signons-le tout de suite, et tu me donneras une bonne nuit. Car, en souriant, depuis 15 jours, à cause de vos beaux yeux, je ne dors plus. »
Lucien s'arrêta, le regarda et se jeta dans ses bras. Monsieur Leven, père, fut très sensible à cette embrassade. Il avait 65 ans. Lucien lui dit, pendant qu'il était dans ses bras,
« Ce sera le dernier sacrifice que vous me demanderez ?»«
Oui, mon ami, je te le promets. Tu fais mon bonheur. Adieu. »
Leven resta debout dans le salon, profondément pensif. L'émotion si vraie d'un homme si insensible, ce mot si touchant, « Tu fais mon bonheur », retentissait dans son cœur. Mais, d'un autre côté, faire la cour à Madame Grandet lui semblait une chose horrible, une hydre de dégoût, d'ennui et de malheur.
Devoir renoncer, se disait-il, à tout ce qu'il y a de plus beau, de plus touchant, de plus sublime au monde, n'était donc pas assez pour mon triste sort. Il faut que je passe ma vie avec quelque chose de bas et de plat, avec une affectation de tous les moments qui représente exactement tout ce qu'il y a de plat, de grossier, de haïssable dans le train du monde actuel. Ah, ma destinée est intolérable.
Voyons ce que dit la raison, se dit-il tout à coup. Quand je n'aurai pour mon père aucun des sentiments que je lui dois, en stricte justice, je dois lui obéir. Car enfin, le mot d'Ernest s'est trouvé vrai. Je me suis trouvé incapable de gagner 95 francs par mois. Si mon père ne me donnait pas ce qu'il faut pour vivre à Paris, ce que je devrais faire pour gagner de quoi vivre ne serait-il pas plus pénible que de faire la cour à Madame Grandet ? Non, 1000 fois non. À quoi bon se tromper soi-même ? Dans ce salon, je puis penser, je puis rencontrer des ridicules curieux, des hommes célèbres. Cloué dans le comptoir de quelques négociants d'Amsterdam ou de Londres, correspondant de la maison, ma pensée devrait être constamment enchaînée à ce que j'écris, sous peine de commettre des erreurs. J'aimerais bien mieux reprendre ma vie de garnison. La manœuvre le matin, le soir la vie de billard. Avec une pension de 100 louis, je vivrais fort bien. Mais encore, qui me donnerait ces 100 louis ? Ma mère. Mais si elle ne les avait pas, pourrais-je vivre avec ce que produirait la vente de mon mobilier actuel et les 95 francs par mois ? Lucien prolongea longtemps l'examen qui devait amener la réponse à cette question, afin de ne pas passer à cet autre examen, bien autrement terrible. Comment ferais-je dans la journée de demain pour marquer à Madame Grandet que je l'adore ? Ce mot le jeta peu à peu dans un souvenir profond et tendre de Madame de Chastelet. Il y trouva tant de charme qu'il finit par se dire « À demain les affaires !» Ce « demain-là » n'était qu'une façon de parler, car quand il éteignit sa bougie, les tristes bruits d'une matinée d'hiver remplissaient déjà la rue. Il eut ce jour-là beaucoup de travail au bureau de la rue de Grenelle et à la Bourse. Jusqu'à 2 heures, il examina les articles d'un grand règlement sur les gardes nationales, dont il fallait rendre le service de plus en plus ennuyeux, car règne-t-on avec une garde nationale ? Depuis plusieurs jours, le ministre avait pris l'habitude de renvoyer à l'examen consciencieux de Leven les rapports de ses chefs de division, dont l'examen exigeait plutôt du bon sens et de la probité qu'une profonde connaissance des 44 000 lois, arrêtés et circulaires qui régissent le ministère de l'Intérieur. Le ministre avait donné à ses rapports de Lucien le nom de « sommaire succinct ». Ces sommaires succincts avaient souvent 10 ou 15 pages. Lucien était très occupé de ses affaires de télégraphe et, ayant été obligé de laisser en retard plusieurs sommaires succincts, le ministre l'autorisa à prendre 2 commis et lui fit le sacrifice de la moitié de son arrière-cabinet. Mais dans cette position indispensable, le commis futur ne serait séparé des plus grandes affaires que par une cloison, à la vérité garnie de matelas en sourdine. La difficulté était de trouver des gens discrets et incapables par honneur de fournir des articles, même anonymes, à cette aborée nationale. Lucien, après avoir inutilement cherché dans les bureaux, se souvint d'un ancien élève de l'école polytechnique, garçon fort silencieux, taciturne, qui avait voulu être fabricant et qui, parce qu'il avait les connaissances supérieures, avait cru avoir les inférieures. Ce commis, nommé Koff, l'homme le plus taciturne de l'école, coûta 80 louis au ministère, car Lucien le découvrit à Sainte-Pélagie, dont on ne put le tirer qu'en donnant un acompte aux créanciers. Mais il s'engagea à travailler pour 10, et qui plus est, on put parler devant lui en toute sûreté. Ce secours permit à Leven de s'absenter quelquefois 15 minutes du bureau. 8 jours après, le comte de Vaise reçut 5 ou 6 dénonciations anonymes contre M. Koff. Mais dès sa sortie de Sainte-Pélagie, Lucien l'avait mis, à son insu, sous la surveillance de M. Crapard, le chef de la police du ministère. Il fut prouvé que M. Koff n'avait aucune relation avec les journaux libéraux. Quant à ses rapports prétendus avec le comité gouvernemental de Henri V, le ministre en rit avec Koff lui-même. « Accrochez-leur quelques louis, cela m'est tout à fait égal », dit-il à ce commis, qui se trouva fort choqué du propos, car, par hasard, c'était un honnête homme. Le ministre répondit aux exclamations de Koff. Je vois ce que c'est. Vous voulez quelques marques de faveur qui fassent cesser les lettres anonymes des surnuméraires jaloux du poste que M. Leven vous a donné. Eh bien, dit-il à ce dernier, faites-lui une autorisation, que je signerai, pour qu'il puisse faire copier d'urgence dans tous les bureaux les pièces dont il faudra les doubles au secrétariat particulier. À ce moment, le ministre fut interrompu par l'annonce d'une dépêche télégraphique d'Espagne. Cette dépêche enleva bien vite Leven aux idées d'arrangement intérieur pour le jeter dans un cabriolet roulant rapidement vers le comptoir de son père et de là à la Bourse. Comme à l'ordinaire, il se garda bien d'y entrer, mais attendait des nouvelles de ses agents en lisant les brochures nouvelles chez un libraire voisin. Tout à coup, il rencontra trois domestiques de son père qui le cherchaient partout pour lui remettre un billet de 2 lignes. « Courez à la bourse, entrez-y vous-même, arrêtez toute l'opération, coupez net, faites revendre, même à perte, et cela fait, venez bien vite me trouver. » Cet ordre l'étonna beaucoup. Il courra l'exécuter, il y eut assez de peine, et enfin put courir chez son père. « Eh bien, as-tu défait cette affaire ?»«
Tout à fait, mais pourquoi la défaire ? Elle me semble admirable. »
« C'est de bien loin la plus belle dont nous nous soyons occupés. Il y avait là 300 000 francs à réaliser. »«
Et pourquoi donc s'en retirer ?»
dit Lucien avec anxiété.
« Ma foi, je ne le sais pas, » dit Monsieur Leven d'un air sournois.
« Tu le sauras de ton ministre si tu sais l'interroger. Cours le rassurer, il est fou d'inquiétude. »
L'air de M. Leven ne fit qu'augmenter la curiosité de Lucien. Il courut au ministère et trouva M. Devez qui l'attendait, enfermé à double tour dans sa chambre à coucher, qu'il arpentait, tourmenté par une profonde agitation.
« Voilà bien le plus timide des hommes !» se dit Lucien.
« Eh bien, mon ami, êtes-vous parvenu à tout couper ?»
Tout, absolument, à 10 000 francs près que j'avais fait acheter par Rouillon, que je n'ai plus retrouvé.
Ah, cher ami, je sacrifierais le billet de 500 francs, je sacrifierais même le billet de 1 000 pour réavoir cette bribe et ne pas paraître avoir fait la moindre affaire sur cette damnée dépêche. Voulez-vous aller retirer ces 10 000 francs ?
L'air du ministre disait
« Partez !»
« Je ne saurais, se dit Lucien, si je n'arrache le fin mot dans ce moment où il est hors de lui.
« En vérité, je ne saurais où aller, reprit Lucien de l'air d'un homme qui n'a pas envie de remonter en cabriolet. « Monsieur Rouillon dîne en ville. Je pourrais tout au plus dans 2 heures passer chez lui et ensuite aller explorer les environs de Tortoni. » Mais votre Excellence veut-elle me dire le pourquoi de toute cette peine que je me suis donnée et qui va engloutir toute ma soirée ?
Je devrais ne vous rien dire, dit son Excellence en prenant l'air fort inquiet. Mais il y a longtemps que je ne doute pas de votre prudence. On se réserve cette affaire. Et encore, ajouta-t-il d'un air de terreur, c'est par miracle que je l'ai su. Par un de ces cas fortuits admirables. À propos, il faut que demain vous soyez assez complaisant pour acheter une jolie montre de femme. »
Le ministre alla à son bureau où il prit 2 000 francs.
« Voici 2 000 francs. Faites bien les choses. Allez jusqu'à 3 000 francs au besoin, s'il le faut. Peut-on pour cela avoir quelque chose de présentable ?»«
Je le crois. »
« Eh bien, il faudra faire remettre cette jolie montre de femme avec une chaîne d'or, et cela par une main sûre, et avec un volume des romans de Balzac portant un chiffre impair, 3, 1, 5, à Madame Lavernaille, rue Sainte-Anne, numéro 90.
Actuellement, que vous savez tout, mon ami, encore un acte de complaisance. Ne laissez pas les choses faites à demi. » Raccrochez-moi ces 10 000 francs et qu'il ne soit pas dit, ou du moins qu'on ne puisse pas prouver à qui de droit que j'ai fait, moi ou les miens, la moindre affaire sur cette dépêche.
Votre Excellence ne doit avoir aucune inquiétude à ce sujet, cela vaut fait, dit Lucien en prenant congé avec tout le respect possible.
Il n'eut aucune peine à trouver M. Rouillon, qui dînait tranquillement à son 3e étage avec sa femme et ses enfants. Et moyennant l'assurance de payer la différence à la revente, le soir même, au café Tortoni, ce qui pouvait être un objet de 50 ou 100 francs, toute trace de l'opération fut anéantie, ce dont il prévint le ministre par un mot. Lucien n'arriva chez son père qu'à la fin du dîner. Il était tout joyeux en venant de la place des Victoires, où logeait M. Rouillon à la rue de Londres.
La corvée du soir, dans le salon de Madame Grandet, ne lui semblait plus qu'une chose fort simple. Tant il est vrai que les caractères qui ont leur imagination pour ennemi doivent agir beaucoup avant les choses pénibles et non y réfléchir. Je vais parler ad hoc et ab hoc, se disait Lucien, et dire tout ce qui me viendra à la tête, bon, mauvais ou pire. Je suppose que c'est ainsi qu'on est brillant aux yeux de Madame Grandet, cette sublime personne. Car il faut être brillant avant que d'être tendre, et l'on méprise le cadeau si l'objet offert n'est pas de grand prix.